par la taille du livre, mais Maus costaud par leur enseignement, bien évidemment. Alors, Yona. Alors, c'est peut-être le livre le plus particulier à enseigner parce que c'est le plus connu. Parmi tous les livres des Nevi'im Acharonim, Yona, évidemment, c'est le plus connu puisque on le lit à Yom HaKippourim et que donc, une année sur deux, il y a au moins un rabbin qui va faire un cours sur Yona en préparation à Yom Kippour. Donc, bah, ça veut dire que c'est un livre qui est assez connu, du moins certainement beaucoup plus que Ovadia, ou alors que Amos qu'on a étudié, ou que Hoshéa ou Yoël. Tous ces quatre premiers livres qu'on a étudiés sont quand même vachement moins connus que celui de Yona. Mais n'oublions pas que ça, c'est aussi le danger de Yona. Le danger de Yona, c'est que on croit qu'on le connaît bien. Et donc, on pourrait peut-être passer à côté d'éléments fondamentaux quand on n'étudie pas en profondeur ce texte. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le livre de Yona, comme on a l'habitude de faire pour les autres, et faire genre, on ne sait pas ce qui se passe dans le livre. D'accord? Donc, on va essayer de se mettre d'accord que, je ne sais pas si on va prendre deux ou trois cours pour Yona, on n'y arrivera pas en une fois, c'est sûr. On fait comme si c'est la première fois qu'on le redécouvrait. D'accord? Alors allons-y. Tout d'abord, avant de rentrer, vous avez vu, j'ai pas encore mis le texte, parce que avant de rentrer là-dessus, j'aimerais, de manière générale, j'ai dit qu'on ne savait plus ce qu'il y avait marqué dans Yona, mais on va dire qu'on se rappelle encore pendant 5 minutes. Le thème abordé par Yona, c'est le thème de la Teshuvah. Et c'est un livre qui est fondamentalement différent des quatre qu'on a vus avant, mais également de ceux qu'on va voir après. Puisque Yona, c'est une histoire. Ça n'a rien à voir avec les autres livres qu'on a vus où il y a des névouotes que HaKadosh Baruch Hu, il donne aux prophètes et bah, ça s'étale dans le temps et tu sais pas exactement qui que quoi quand. Là, la névoa de Yona, eh bien, on peut la, j'allais dire presque la dater. On peut savoir exactement quand ça s'est passé, l'histoire de Yona, puisque Yona, on peut le replacer dans un contexte historique. Eh oui, quel est le contexte historique de Yona à Navi? Est-ce que quelqu'un sait à quelle époque Yona a vécu? Alors, quelqu'un a une idée?
Allez, s'il vous plaît, le micro.
Qui a une idée? Non, oui, non, non, oui.
Vers moins 800.
Vers moins 800, oui, ça passe.
Ça passe juste.
Ça passe pas mal, ça passe pas mal. En fait, Yona, on a la chance d'avoir plus ou moins exactement sa datation, puisque Yona Hanavi parle à l'époque de Yéroboam Hacheni. Il est également cité dans le livre de Melachim. Eh oui, on va retrouver Yona dans Melachim Bet. Ah oui, ça, on le savait ou on le savait pas? On se rappelle ou on se rappelle pas? Ouais. Effectivement, dans le livre de Melachim Bet, eh bien, on va retrouver Yona, dans Melachim Bet au chapitre 14, on va retrouver Yona sous le règne de Yéroboam Hacheni. Donc, effectivement, ça nous amène en termes de timing, on va dire que ça nous amène, ouais, plus ou moins aux années moins
Il a
800.
écrit 720 avant la Sphère.
Oui, bah, plus ou moins moins 800. Voilà, comme ça passe. Et moins 750, allez, comme ça on va être plus proche. Et donc Yona, il est un personnage qui est facile à replacer dans le contexte. Et le contexte est qu'à ce moment-là, Am Israël, l'omachou-machou. L'omachou-machou, puisque on est vers la fin de Mamlechet Israël. Dans quelque temps, Mamlechet Israël se fera détruire par Ashour. Quand on sait ça, on peut peut-être un tout petit peu comprendre les réticences de Yona d'aller faire teshuva à la capitale de Hachour. Parce que les tensions entre Mamleret Israël et Ashour, elles sont déjà là. Donc, il faudrait peut-être replacer les choses dans leur contexte historique pour se rappeler que c'est pas aussi évident d'envoyer Yona devant le roi de Nineveh. C'est pas évident. Ok? Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, le thème abordé par Yona dans son livre, eh bien, c'est comme on l'a dit, le thème de la Teshuvah. Le Rav Kook va nous expliquer qu'il y a trois sortes d'idées au sein des êtres humains. Il y a des idées qui sont communes à tout le monde. Il y a des idées qui sont communes à tout le monde, mais qui se réalisent différemment en fonction des différentes identités humaines. Et il y a des idées qui sont le propre d'Israël. Les idées communes à tout le monde, je ne sais pas moi, l'otirtzach, c'est commun à tout le monde. Les idées communes à tout le monde, mais qui vont s'exprimer différemment, par exemple, le concept de justice. Mais la justice ne sera pas la même en fonction de t'es là ou t'es pas là. Mais des idées qui sont propres à Israël, c'est par exemple l'idée de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un concept juif. Juifo-juif. Une fois qu'on sait cela, eh bien, on va aborder le livre de Yona comme étant le sefer de la Teshuvah. Pourquoi? Et on va le voir dans le texte. Parce que Yona s'oppose à la Teshuvah. Yona, dans un premier temps du moins, n'accepte pas Bichlal, le concept de Teshuvah. Ok? On va essayer de voir et de comprendre de quoi il s'agit. D'où vient Yona? D'où vient-il? Où il habite? Hein? Pas clair, hein? Pas évident. On sait qu'il va avoir un lien avec Yerovam HaSheni, donc on serait tenté à le voir Bemamlechet Israël, mais en fait, nous avons un principe de nos sages, que si il n'est pas mentionné d'où vient le prophète, c'est qu'il vient de Jérusalem. Et effectivement, Yona Hanavi prophétisait, puisait la source de sa prophétie Besimchat Bet HaShoeva Bebet HaMikdash Birushalayim. Sauf que quand on y réfléchit deux petites secondes, Simchat Bet HaShoeva, c'est après Yom HaKippurim. C'est après la Teshuvah. Aha! On va voir, en rentrant dans le texte, que son œuvre à Yona va être absolument pas linéaire, mais ça va être un véritable montagne russe pour faire accepter à Yona, et donc par son intermédiaire à nous, l'idée de la Teshuvah. Alors, je vous propose de sans plus attendre, passer au texte. Iné, attendez voir. Hop là, tac, 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 tac. Voilà. Yofi. Alors allons-y. Nous pouvons rentrer maintenant dans le chapitre 1, verset 1 de Yona Hanavi. Vayi devar Hashem el Yona ben Amitai lemor. Alors, vous vous rappelez de notre principe, lorsqu'on cite le nom d'un prophète avec le nom de son père, c'est que son père aussi était prophète. Mais là, on va pas s'arrêter sur qui était son père, on va s'arrêter sur Bichlal Yona. Il s'appelle Yona. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une Yona? Alors, vous allez me dire une colombe. Mais qu'est-ce que ça représente la colombe? Et ne me dites pas la paix. Parce que la colombe qui est symbole de paix, c'est extrêmement récent. Quel est, d'après Chazal, d'après le judaïsme, le symbole de la colombe? Ça représente quoi la colombe?
Israël, Israël, Israël.
Alors, je suis désolé, mais non.
La vie ou la...
C'est-à-dire que la colombe du shalom, attendez, la colombe du shalom qu'on voit sur le symbole d'Israël, c'est extrêmement récent. Donc c'est pas ça le symbole de la colombe dans le judaïsme.
C'est la fin du déluge.
Alors oui, effectivement, c'est la fin du déluge. C'est le moment où donc... Pardon ?
C'est la fidélité.
Voilà. Ce sont ces deux dimensions-là qui sont importantes. D'un côté, la fin du déluge est donc l'indépendance de l'homme qui va pouvoir sortir de la Teva, mais qui demande toujours à être en connexion avec Dieu. Et oui, puisque nous dira la colombe dans le Perek Shira, Yayona nous dit « Yiyu mezonotai merorim kazait beyadecha » Nous dit la colombe, moi je préfère que ma nourriture soit amère, mais elle vienne de toi, plutôt qu'elle soit douce comme le miel, mais qu'elle vienne des hommes. En d'autres termes, je veux être uniquement en contact avec Dieu. Et comme tu dis, deuxièmement, la Yona, c'est d'après le judaïsme un symbole de fidélité. Alors je ne sais pas, je ne suis pas zoologue, je ne sais pas si au niveau de la nature... C'est vrai ce que le Talmud dit, mais le Talmud dit que la Yona est le seul parmi les animaux qui a une zugiyut ne'emana, qui a une vie de couple, à la différence des autres animaux qui vont trouver une femelle pour s'accoupler et la saison prochaine, bah, ils trouveront une autre femelle pour s'accoupler. La Yona vit, à partir du moment où elle a choisi Monsieur Yona, Madame Yona, eh bien, ils vivent en couple. Alors, je ne sais pas si c'est vrai au niveau... au niveau de la faune, j'en sais rien, c'est le chashuv. Ce qui est important, c'est que le symbole du judaïsme pour la colombe, c'est le symbole de fidélité. Ça s'appelle Sheli. C'est-à-dire complètement intransigeant quant à la vérité. Mais ça a l'air. Ainsi donc, Yona ne peut pas accepter Ra'ayon à Teshuva. Parce que pour Yona, quelqu'un qui faute, qu'est-ce qui doit lui arriver? Ben, il doit mourir. Point. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, tout le programme ici, pour Akadosh Baruch Hu, va être d'apprendre à Yona le concept de la Teshuva. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. קום! קום? Ça veut dire qu'il était dans quelle situation si on lui dit de se lever? Ben, il était assis, allongé, statique. Yona n'est pas quelqu'un qui va au devant de la situation. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit קום! לך אל נינווה. אפה פה פה פה, מה זה נינווה? Ah, je suis désolé que, au début du cours, là, on est obligé de reprendre les bases. Mais c'est trop important. Mazé Ninvé. Un juif, il entend parler de Ninvé. Ça lui fait penser à quoi?
Babylone. Babylone, non?
Attendez, t'en mort, deux secondes. Tel Aviv, non, ça peut pas me faire penser à Tel Aviv.
Non.
Parce que quelqu'un a dit Tel Aviv. Mais c'est pas encore Tel Aviv. Il n'y a pas encore eu Tel Aviv.
C'est Nachérib.
Moslou, c'est Nachérib. C'est la capitale de la Syrie.
Tant mort. Tant mort. Moslou. Excusez-moi.
C'est la ville de Sennacherib.
C'est bon? Je peux, moi aussi? Alors, de la même façon que ça ne peut pas nous faire penser à Tel Aviv, parce que Tel Aviv n'est pas encore créé à l'époque de Yona, ça ne peut pas non plus nous faire penser à Mossoul. C'est-à-dire, ça ne peut pas non plus nous faire penser à la Syrie. Tout ça, ça n'existe pas encore. Quand tu dis que c'est la ville de Sennacherib, j'imagine que c'est de lui dont tu parles quand tu parles de Sennacherib. Sennacherib, effectivement, mais pas encore. C'est-à-dire qu'à l'époque de Yona, Sennacherib n'est pas encore le roi de la Assyrie. Donc c'est pas encore ça. Donc non, moi je pose la question. Quand à l'époque de Yona, on parle de Ninvé, à quoi cela fait-il référence? Avant que Dieu lui dise à Ninvé, il y a plein de problèmes. Moi, je suis un juif à l'époque de Yona, j'entends parler de Ninvé. Tout de suite, la référence, c'est quoi?
C'est la capitale de l'Assyrie. Non, un seul mot.
Oui, de la Assyrie. Oui, tu as raison, bien sûr. Bien sûr, c'est la capitale de la Assyrie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est à ça qu'ils pensent. Mais moi, je te parle au niveau Torah. Au niveau Torah, ils pensent que c'est... Enfin, ça fait référence à quoi, Ninive?
Dépravé.
Dépravé? Pourquoi tu dis ça?
Bah parce que... Après, il va lui dire...
Ah, après David après David. Après Moi, je veux avant.
Ça ressemble un peu à Sdom.
Pourquoi tu dis ça?
Non.
Stam?
On dit que c'était les descendants de l'Égypte, du roi d'Égypte, qui sont allés faire Ninive, la ville de Ninive.
Car... Le roi, c'est Pharaon.
C'est pas Nabucodonosor qui a détruit après?
Ah, mais après! Nabucodonosor, c'est 200 ans plus tard.
Oui, mais il n'a pas prévu ça.
Mais il n'est pas né encore à ce moment-là.
D'accord, mais il a prévu la destruction par Ninive.
Quoi?
Jonas a prévu la destruction.
Non.
Ah non.
Ben non, puisque dans l'histoire, il va lui dire, si vous ne faites pas de tchouva, alors vous serez détruit dans 40 jours. Mais ça n'a rien à voir avec Nabucodonosor.
C'est Nimrod.
Ah, là, tu m'intéresses. Ah, là, ça m'intéresse.
Pharaon.
Non, toujours pas Pharaon.
Qui a créé.
Oui, c'était le roi de Ninive.
Désolé, mais non.
Ah oh, non.
Ben, je suis désolé. Ninive, en tant que capitale de la Assyrie, était un royaume indépendant qui n'était pas sous domination égyptienne. C'était d'ailleurs la deuxième superpuissance avec l'Égypte, avant que Babylone ne commence à monter. Mais quelqu'un a dit Nimrod, et là ça commence à m'intéresser. Parce que lorsqu'on parle de Ninive, Rabotai, dans la Torah, c'est quand la première fois qu'on parle de Ninive dans la Torah? Quel paracha? Paracha de Noach. Eh oui, dans la paracha de Noach, on nous apprend qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Cham. Cham, il a un fils qui s'appelle Cush. Il en a un autre qui s'appelle Put, un autre qui s'appelle Mitzrayim et un autre qui s'appelle Knaan. Ok? Et après on nous dit où Cush yalad et Nimrod.
C'est le père de Nimrod.
Qui? Cush. Cush, c'est le père de Nimrod. Et après, on nous dit que Nimrod, eh ben, il était achel liot gibor tzaid lifne asher, vatei reshit mamlachto bavel. Ah. Donc, Nimrod est un homme qui a créé Babylone. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Yofi. Et c'est très bien, il a donc également mis en place la fameuse tour de Babel, ce fameux Nimrod. Seulement, nous dit la Torah, « Umina aretzahi yatsa ashur » Et il est parti construire Ninive à Ir Agedola. En d'autres termes, Ninive a été construite par un homme qui s'appelle Ashur, de là le royaume de la Assyrie, Ashur, et Ashur est devenu non seulement le fondateur, mais également l'empereur, et Ashur va créer donc Ninive. En quoi? En réaction contre Nimrod et sa Babylone. Parce qu'il voulait être lui, le roi de la ville. En gros, il n'a pas créé Ninive parce qu'il était fondamentalement opposé aux idéaux de Babylone. Mais il a créé Ninive parce qu'il voulait être calife à la place du calife. Ok? Ce qui veut dire que Ninive devient la deuxième Babylone. Et elle va d'ailleurs la supplanter pendant un temps. D'accord? Donc lorsque moi j'entends parler de Ninive, j'entends parler de cette ville qui est censée ressembler à Babylone, qui est censée être... celle qui annule les identités. Et c'est peut-être le plus grand tort de Ninive, d'enlever l'identité aux gens. C'est pourquoi lorsque Sanhérib deviendra le roi de Nineveh, le roi de la Assyrie, eh bien on nous dit, depuis Sanhérib, il n'y a plus de nation, puisque Sanhérib a tout chamboulé. D'accord ? Donc voilà tout ce à quoi fait référence le mot Nineveh dans la tête d'un juif. Koum lech el Nineveh, a'ir agedola, ukra alea, ki alta ra'atam lefanai. Alors maintenant je sais que cette ville-là fait le mal. Maintenant, quand il y a des gens qui font le mal dans la Torah, quand il y a une ville qui fait le mal dans la Torah, qu'est-ce qui fait Dieu ? Ben, il les détruit. Là, il dit à Yona, va faire en sorte que je ne les détruise pas. Va leur faire faire teshuva. C'est la première fois qu'on voit ça. Et Yona refuse. Vayakom Yona livroach Tarshisha. Et faisait Tarshish, Yona veut s'enfuir. Mais c'est Tarshish. Alors Tarshish, soit c'est en Turquie, soit c'est aux confins de la mer Méditerranée, vers l'Espagne. Dans tous les cas, Yona s'enfuit. Mais Efo, Milifne Hashem. C'est-à-dire que où est-ce qu'il veut aller au final? Il n'y arrivera pas. Mais où est-ce qu'il avait projeté d'aller? C'est où, Milifne Hashem? Lifne Hashem, c'est Eretz Israël. Asimu Boreach, Milifne Hashem, il va de l'autre côté. Il va aller en Amérique. Non, c'est pas une blague. Alors, évidemment, il ne sait pas que ça s'appelle l'Amérique, mais il veut aller de l'autre côté de la terre. Il veut complètement s'effacer de l'histoire. Là où il fera jour en Israël, il fera nuit là-bas. C'est-à-dire, Vayakom Yona livrar Tarshisha, Milifne Hashem, Vayered Yafo. Donc il arrive à Yafo pour prendre le bateau, Vayimtsa Onia ba Tarshish, Vayiten Sechara, Vayered ba Lavo Imahem, Tarshisha, Milifne Hashem. Il a trouvé un bateau qui part à Tarshish, et Unatan et Sechara, Mazé Sechara. Alors, soit on dit il a payé sa place, ou alors, comme disent nos sages, il a acheté tout le bateau. Il veut être sûr qu'il va bien pouvoir partir là où il veut. Il achète le bateau. Ah ah ! Mais deux secondes.
Je peux poser une question ?
Mais oui, je t'en prie.
Il y a marqué quand même « Koum » et après il y a marqué « Vayakam » comme si... Il faisait quand même ce qu'on lui disait.
Oui, bien sûr. Sauf que Vayakom, pour faire quoi?
Le contraire, d'accord.
Ben voilà.
Pourquoi on utilise le même mot? C'est ça que je veux dire.
Ah, ça veut dire que Yona, Dieu lui demande d'être actif. Mais lui, il décide d'être actif dans sa passivité. C'est-à-dire, il est actif pour ne pas faire. Parce qu'il est complètement opposé à cela. D'accord? Donc, il va acheter le bateau et il s'en va. Milifne Hashem. D'ailleurs, comment je sais qu'il a les moyens d'acheter le bateau? C'est pas donné un bateau.
Les prophètes étaient riches.
Ben voilà. Comme c'est un prophète, je sais qu'il est riche. Évidemment. Bezeder. Vehashem itil ruach gedola elayam. Vaïsar gadol bayam, vaonia chisheva le ishaver. Il y a ici un shiur qui commence pour Yona. Quel est ce shiur? Tu vas devoir faire face à l'action. Tu vas être plein de vie. Tu vas être tout le temps face aux forces de la vie. Toi qui veux à chaque fois t'annihiler et t'annuler pour ne pas faire face, eh bien maintenant tu vas devoir faire face à la réalité de la vie. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu lui envoie une épreuve, un signe, ce que vous voulez, c'est plein de vie. Et bien là, l'océan se déchaîne. Alors le Midrash va aller loin, on va dire, que, en fait, c'était une mer très calme. Et uniquement là où il y avait Yona et le bateau, c'était la tempête. Mais tu allais, je sais pas moi, à 2 km du bateau, c'était le calme plat. C'est-à-dire qu'on veut lui montrer Yesh po ruach gedola. Yesh po sa'ar gadol. Alors quand on regarde le livre de Yechezkel, parce que évidemment si on a étudié Tréhassar, on a déjà étudié Yechezkel, bien sûr, puisque ça apparaît après dans le Tanakh. Donc j'imagine que tout le monde a étudié le prophète Ézéchiel, bien évidemment, et on se rappelle de sa névoie du premier chapitre, où il voit les clipotes, où il voit ces dimensions qui représentent les forces, mais qui sont plus destructrices dans ce monde. Il y en a une qui s'appelle Anan Gadol, Ruach Seara, Veshmit Lakachat. Et là, on a Ruach Gedola, Vesar Gadol. C'est-à-dire, donc, on est face à ces kochotes de vie qui sont là pour détruire la Onia. Va Onia, Chishva, Leishaver. Va Yireu Amalachim. C'est qui les Malachim? Les marins. Va'iru amalachim va'izaku ishel Elohav. Ils sont idolâtres. D'où viennent-ils ces marins? D'où ils viennent? Eh bien, nous disent nos sages, ils viennent de Ninevé. Ils font la liaison, la connexion Ninevé-Tarshish. Et c'est pour ça que Yona, il prend le bateau parce qu'il va à Tarshish, il va de l'autre côté. Et donc, ils ont chacun leur dieu. Vaïzaku ishel Elohav, vayatilu et akelim asher baonia elayam. La kel mealem. Eh oui, on va lâcher du lest, comme on dit. Veyona, yarad, eliarkete asfina, vaishkav, vayiradam. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? On est face au déchaînement des forces de la vie, et Yona vient et descend le plus bas possible. Vous remarquez que Yona veut à chaque fois descendre. Il était à Jérusalem à 700 mètres d'altitude. Maintenant, il va à Yafo. De Yafo, il va sur le port, il va sur l'eau. Et maintenant, il descend dans la cale du bateau. Et on va voir que plus tard, il va même aller dans l'eau, dans les profondeurs. Donc, on voit que Yona, mamash, il ne veut plus faire partie de l'histoire. Vaishkav, Vairadam. Pourquoi il fait ça, Yona? Est-ce que Dieu lui a dit ce qu'il devait dire à Ninevé?
Odlo.
Il lui a juste dit Ukra Alea. Il lui a pas dit ce qu'il faut dire. Est-ce que ça veut dire il va faire tchouva? Enfin, ils doivent leur dire de faire tchouva? Ou alors ça veut dire préparez-vous, Dieu va vous tuer? Il sait pas encore ce que Dieu va lui dire. Il ne veut pas entendre. Vous savez pourquoi il veut pas entendre? Parce que si Dieu lui dit, va leur dire qu'ils vont mourir, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu lui dit, va leur dire de faire teshuva, Yona, il veut pas le faire. Mais il est obligé de le faire. Parce qu'un prophète qui a reçu une prophétie, il n'a pas le droit de ne pas la transférer. Ça s'appelle Kovesh Nevuato. Venavi chez Kovesh Nevuato, Chayav Mita. Non, Mita. Donc, il n'a pas envie d'entendre. Et il va s'endormir en fond de cale. Ok? Vaikrav elav rav achovel. Agave, entre parenthèses, je vous le dis maintenant, mais on va pas se suivre cette explication-là. Mais le Gaon de Vilna, il a une explication extraordinaire de Yona qui fait passer toute l'histoire pour un machal. Et dans lequel il explique que, en fait, Yona, c'est la Neshama, et le fait qu'il tombe dans l'eau et dans le poisson qui va le recracher, c'est les Gilgulim, tout ça. Kitsur, nous, on va pas aller sur ce point-là, mais sachez que ça existe également. En tout cas, Rav Achovel, le chef des marins, vient le voir. Vayomerlo, Malecha Nirdam, Kum Kera El Elohecha. Tiens, cette phrase m'est familière. Quand est-ce qu'on l'utilise? Dans les slichot. Dans les slichot, on dit מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. Maintenant, deux secondes. À qui appartient la Onia? On vient de dire, elle appartient maintenant à Yona.
C'est ce que je voulais poser. Et tous les gens étaient quand même dans le bateau. C'est à lui le bateau.
Exactement. Donc c'est lui le capitaine du bateau maintenant. Et il est parti. Le capitaine n'a pas quitté le navire. Il s'est annulé au fond du navire. Viens le voir. Le Rav Achovel lui dit, Malecha Nirdam. Kum kera el Elohecha. Eux, ils ont essayé d'appeler leur Dieu, ça n'a pas marché. Tout le monde voit bien que Yona, il n'est pas de Nineveh, ni de Tarshish. On l'a récupéré à Yafo et il ressemble à un hébreu, à un juif. Tout le monde connaît les Bnei Israël à cette époque-là. Donc il dit Kum kera el Elohecha.
Oui. Kum Shlishi, c'est la troisième fois qu'on dit Kum.
Oui. Deux fois Kum. Mais t'as compris? T'as compris que tout ce qu'on demande à Yona, c'est de se lever?
C'est la Kum.
Nakhon. Et tu vois que c'est redondant, il veut pas. D'accord? Vayomru ishel re'eu. Lechu venapila goralot. Veneda'a beshel mi ara azot lanu. Vayapilu goralot, vayipol agoral al Yona. Donc en fait, ils savent maintenant. Il y a d'un côté le Rav Achovel qui lui a dit fais quelque chose. Parce qu'on sait que. T'es dans le coup. Et les autres marins qui ont fait les goralotes, qui ont tiré au sort pour savoir qui était vraiment le responsable, et tout le monde sait que c'est Yona le responsable. Et je vais vous dire que ça, Yona aussi, il le sait. C'est ce qu'il dit. Iné. Vayamro elav. Agidal na lanu. Beacher le miara azot lanu. Ma melachtecha. U me ain tavo. Ma artecha. C'est-à-dire, on voit bien que tu es hébreu, mais tu ne te comportes pas comme un hébreu. Donc dis-nous d'où tu viens. De quel est ton pays? Quel est ton boulot? Parce que ça sent mauvais cette histoire. Tout le monde voit que tu es un navi d'Israël, mais tu ne te comportes pas comme un navi d'Israël. ויאמר עליהם עברי אנוכי. Quand il dit ça, pourquoi il dit עברי et pas israeli אנוכי? Parce que être hébreu, ça veut dire être prophète. Ever navi aya. La particularité des hébreux, c'est la capacité de dévoiler la névoie. Donc il dit Ivri Anochi, ça répond à toutes les questions. Et donc maintenant je vais t'expliquer. Ve'et Hashem Elohe Hashamaim Ani Yare. Asher Asa Et Hayam Ve'et Hayabasha. Opa! Le prophète vient de leur expliquer à eux c'était qui Dieu. C'est énorme. Va'yir'u Anashim Yir'a Gedola. ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידוע האנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. C'est-à-dire, comment tu peux aller contre Yudke Vavke? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde connaît Yudke Vavke. Et dit, toi, tu sers Yudke Vavke, mais comment tu peux aller contre lui? C'est pas possible. ויראו האנשים, כי יגיד להם, ויאמרו אליו, מה נעשה לך? ואשתו קיים מעלינו, כי הים הולך וסוער. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? מה נעשה לך? Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Dis-nous ce qu'il faut faire pour calmer la mer. Donc ça veut dire que ces marins, ils acceptent complètement le dévoilement divin. Yona vient de leur expliquer qui était Dieu. Et ils acceptent. ויאמר עליהם שאוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם balancez moi dans l'eau parce que c'est moi l'histoire, c'est pas vous. Mais en fait Yona, qu'est-ce qu'il demande? Il comprend pas que Dieu il l'appelle en fait dans tout ça, ou alors il comprend très bien mais il fait l'autruche et il dit je veux descendre encore plus bas. Ok ? Alors que faire ? Vayachteru anashim la'ashiv al hayabasha velo yacholu ki hayam oler vesoher aleihem. Ils acceptent pas. Les malachim, ils acceptent pas. Ils disent, non, ça va pas la tête. Nous, on n'est pas des meurtriers, on n'est pas des assassins, on va pas te tuer. Te balancer dans l'eau, c'est te tuer. Ma pitom. De là, j'apprends que ces gens-là, ce sont quoi ?
C'est des anachim, c'est plus des melachim.
Donc, c'est anachim, ça veut dire quoi ?
C'est plus des melachim.
D'accord, d'accord.
C'est des gens.
Mais c'est qui ?
C'est des êtres humains.
Non, non, mais attends. Ah, non, non, non. Et j'entends le malach, là-bas, ça ne veut pas dire des anges. Ça veut dire des marins.
Malachim, malachim, c'est plus. On les a appelés les malachim. Maintenant, c'est des anachim.
Non, mais quand il les a appelés malachim, ça voulait pas dire des anges.
Non.
Ah, d'accord, d'accord. Non, je voulais juste qu'on soit sûr. Anachim, batanar.
Matelot.
Oui, matelot, matelot, exactement.
Matelot.
Maintenant, anachim, batanar. Anachim, ça fait référence à des tzadikim. Donc là, on voit que ces gens-là, c'est des tzadikim. Ils veulent pas tuer Yona. Mamash lo rotzim. Et donc, ils ont essayé de trouver une autre solution, de rejoindre la terre ferme. Aval lo yacholu. Ils n'ont pas réussi. Vayikreu el Hashem vayomru. Ana Hashem. Alna novda ban nefesh ha'ish hazeh. Ve'al titen alenu dam naki. Qui a ta Hashem, qui a Asher Chafatzta Asita. Ils disent à Dieu, écoute, nous en veux pas, on va le balancer par-dessus bord. Mais nous en veux pas. On n'a pas voulu ça, c'est toi qui as voulu ça. Comment on appelle ce qu'ils viennent de dire ? C'est quoi ? C'est une remarque ? C'est une tfila, Rabotai.
Une tfila.
Ana Hashem. Zetfila. Sauf que moi j'ai un problème. Qui sont les seuls personnages dans tout le Tanakh qui prient ? Qui sont les seuls personnages qui prient dans tout le Tanakh ?
Les prophètes.
Les prophètes, exactement. Seul un prophète prie dans le Tanakh. Pourquoi ? Eh bien parce que prier, c'est-à-dire s'adresser à Dieu. Si t'es pas prophète, tu peux pas prier. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Donc il n'y a pas d'exemple dans le Tanakh d'une personne qui prie et qui est pas prophète. Eh oui, il faut être un prophète pour prier. Vous comprenez pourquoi, Nahon ? J'ai pas besoin d'expliquer. Oui, c'est clair pour tout le monde ? Parce que vous avez compris que prier, c'est parler à Dieu. Mais si je ne sais pas qui c'est Dieu, peut-être que je vais parler à quelqu'un qui n'est pas le bon numéro. Donc les seuls qui prient sont des prophètes. Sauf que eux, les marins, les matelots, c'est pas des prophètes. Alors comment ils peuvent se permettre de prier ?
Et Tan, je n'ai pas compris ton explication.
Oui.
Le fait qu'il n'y ait que des prophètes qui prient, dans le Tanakh, c'est pas une preuve que les gens qui n'étaient pas prophètes, qui n'acceptaient pas à la prophétie, que eux, ils priaient pas.
Oui, tout à fait. Ah, tu dis c'est pas une preuve.
Ils n'étaient pas prophètes, ils pouvaient très bien.
Ah, tu me dis c'est pas une preuve.
Non, c'est pas une preuve. Dans le Tanakh, il y a que les prophètes qui prient, mais peut-être que des simples personnages qui n'avaient pas accès à ce niveau de prophétie ou à aucun niveau de prophétie pouvaient quand même prier, sauf que c'est pas raconté dans le Tanakh.
Bon, alors j'ai envie de te dire. Je ne sais effectivement pas quelle était la liste des courses que Bathsheba elle a donné à David Ameler. J'avoue, ce qui n'est pas marqué dans le Tanakh, je ne sais pas, c'est pas marqué. Par contre, c'est oui marqué que lorsqu'il y a un problème pour l'âme Israël, eh bien, il demande à Shmuel de prier. Et eux, ils ne prient pas. Qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on vient voir le Navi pour que lui, il intercède chez Dieu. On voit jamais quelqu'un prier. Et pourquoi on ne voit pas quelqu'un prier ? Eh bien parce que, effectivement, si on n'est pas prophète, c'est assour de prier. N'est-ce pas ?
Non, vas-y.
D'abord, c'est où la première fois où apparaît le mot Leït Palel?
C'est faire des récits, ça c'est sûr.
Ouais. C'est la première fois, c'est dans la parasha de Vayera, et c'est dans la première fois où apparaît le mot Navi, prophète. C'est lorsque Dieu dit dans le rêve à Avimelech, il lui dit « Ve'ata achev eshetaish » parce qu'il avait pris Sarah, alors il lui dit « Rends cette femme à son mari, ki navi ou ve'yit palel ba'atra » C'est-à-dire que le lien est clairement établi dans la Torah, parce qu'il est prophète, alors il priera pour toi. Là-dessus, je rajoute une chose. Dans la halakha, halakha, ça va, on a le droit de citer le Shulchan Aruch. C'est fair enough. Nous dit le Shulchan Aruch, Be'ilchot Tefila, Seif Aleph. Comment est-ce qu'on doit prier? Seif Aleph, Tzarich She, Siman Aleph, Slicha, Tzarich She Yechaven, Betfilato. Nous dit Rabbi Yosef Karo, Hamitpalel, Tzarich She Yechaven, Perush Amilot, She Motzi Misfatav. Donc ça, c'est faisable. Il faut juste avoir été à l'Ulpan et apprendre ce que veut dire les mots de la tefila. Ensuite, on nous dit Vegam, il doit enlever de lui Masir Mimeno Kol Amarchavot Atordot Oto Kedesh Eichaer Zakal et Tfilato. Il doit faire le vide en lui-même et ne pas penser à tous les problèmes qu'il a, le gosse qui est en bidoute du gan, du machin, du truc. Du... Non, je me concentre que sur ma tefila. Ok, c'est dur, mais on va dire que c'est faisable. Et puis après, on nous dit, attention, ça s'arrête pas là. De la même façon qu'il doit organiser sa parole, parce que s'il avait été présenté à un roi, il aurait préparé son speech, et ben il doit être très très concentré dans son speech quand il parle à Dieu. Bon, jusque là, tout va bien. Seulement, on nous dit Rabbi Yosef Karo, Chassidim Arishonim, et il amène ça dans la halakha, que les premiers Chassidim, ayou מכוונים את ליבם עד להתפשטות הגשמות ולהתפשטות כוח השכל עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה והיו מתפללים. Ça veut dire que pour prier, il faut d'abord te préparer avant et arriver proche de la prophétie. C'est la halakha. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on arrive proche de la prophétie. Du moins, comment on sait qu'on est arrivé proche de la prophétie? Ben, c'est très simple. Si tu as déjà été prophète une fois dans ta vie, tu sais quand tu es proche. Ce qui veut dire que pour être prophète, pour prier, c'est dans la halakha, faut être prophète. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Kshe'ata omed leitpalel, da lifnemi ata omed. C'est-à-dire la date. Im ta lo yodea oto. Et comment est-ce que tu peux la date et Hachem? Ben, s'il te parle. Donc, Maskana, seuls les prophètes ont le droit, halakhiquement parlant, de prier. Et je te vois venir, tu vas me dire, ben alors c'est bon, alors on peut ne pas aller faire arbitre. Je réponds, les prophètes sont les seuls à avoir le droit de prier. Et nous sommes obligés de prier parce que nous utilisons les mots des prophètes. Puisque la tfila, c'est la Amida, et la Amida a été rédigée par les derniers prophètes. Donc, en fait, quand on prie, on n'est pas prophète, mais on utilise les mots des prophètes. D'accord? Et dans le Tanakh, eh bien, effectivement, tu vois que les seuls qui prient, qui osent prier, ce sont les prophètes. Sauf ici. Ou ici, on a les marins qui prient. Comment est-ce possible? Tchouva, Joker, ben, le prophète leur a dit qui était Dieu. Puisqu'il y a 2 minutes, Yonah leur a dit qui était Yudke Vavke. Donc maintenant que le prophète leur a dit, alors ils peuvent prier. Ben, ça a l'air? C'est bon? Ok. Vaisu et Yona vayatilu elayam. Vaya amod aam misa apo. Ils l'ont jeté dans l'eau et à ce moment-là, l'eau bah, s'est calmée. Le Midrash, il nous raconte que ça ne s'est pas fait en une fois. Qu'au début, ils l'ont mis dans l'eau, mais il était accroché à une corde. Et donc l'eau, au moment où Yonah a touché l'eau s'est calmée. Ils l'ont remonté dans le bateau, elle s'est redéchaînée. Après, ils l'ont mis sous l'eau, ça s'est calmé, ils l'ont remonté, ça s'est redéchaîné. Parce qu'ils ne veulent pas le tuer. Mais au final, ils le balancent dans l'eau. Vayireu ha'anashim yira gedola et Hashem. Vayisbechu zevach la Hashem. Vayidru nedarim. Alors ils ont fait des zevach la Hashem. Où ça? Où ils ont été? Ben, vous vous rappelez, non? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire la première fois? Quand l'eau, elle s'est déchaînée, ils ont essayé de faire quoi?
Revenir.
C'était où?
À Nineveh.
Non.
Ah non.
D'où il vient de partir le bateau?
De Yafo.
De Yafo.
Ah, de Yafo.
Donc là, une fois que l'eau s'est calmée, ils sont repartis à Yafo. Et donc, où est-ce qu'ils ont été faire les Zvachim?
À Yerushalayim.
Au Beth Amikdash. C'est-à-dire, on a des goyim qui sont complètement, on fait tshuva vers Dieu. Vaïdrou Nedarim. Quel Neder ils ont pris, à votre avis? C'est pas marqué, mais c'est évident. C'est-à-dire d'arrêter la Avodah Zara. Pas shoot. C'est-à-dire que l'histoire du premier chapitre se termine sur la teshuva des Malachim. La tshuva des matelots. Et au moment où les matelots font tshuva, où en est Yonah?
Dans l'eau.
Eh bien, Yonah, il est en train de tomber encore plus bas que bas. Est-ce que lui, il est content de cette situation? Oui, il est très content, c'est exactement ce qu'il voulait. Seulement, est-ce que Akadosh Baruch Hu va le laisser tranquille dans sa piscine? Eh bien, absolument pas. Puisque eux, les Malachim, ont compris Rayon HaTeshuva. Ça veut dire que d'autres goyim aussi peuvent comprendre Rayon HaTeshuva. Et ça veut dire que Yonah aussi va devoir accepter Rayon HaTeshuva, l'idée de la Teshuva. Mais comment Yonah va-t-il l'accepter? Par quel stratagème Akadosh Baruch Hu va le faire accepter? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons, eh bien, la semaine prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures.
S'il vous plaît, je peux intervenir?
Oui, bien sûr.
À la tour de Babel,
oui.
Tous les pays ont participé sauf Achour. Achour s'est sauvé, c'est ce que dit Rashi. C'est peut-être pour ça que Hachem veut sauver maintenant Nineveh.
Ah oui, mais j'entends ce que vous dites. Mais le problème, c'est que Achour, il n'a pas fait ça pour de bonnes raisons. Il a fait ça uniquement parce qu'il voulait construire sa tour à lui, sa ville à lui. Vous savez, c'est comme...
Je suis
d'accord avec vous complètement. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait quand il est... D'abord, il n'a pas été à Nineveh. Il n'y avait pas à Nineveh encore. Il s'est sauvé de Babylone. Et il a fait quoi? Il a construit la deuxième Babylone, Nineveh. C'est-à-dire que oui, il s'est sauvé de Achour, de Babylone. Je suis tout à fait d'accord, vous avez raison. Mais la question, c'est... Hein?
Il s'est sauvé, il n'a pas voulu participer.
Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas voulu participer à la tour de Babel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la question, c'est pourquoi il n'a pas voulu y participer? Est-ce que c'est parce que il a une moralité beaucoup plus grande que celle de Nimrod et donc il voit qu'ici, il y a un projet totalitaire et qu'il ne veut pas y participer? Ou alors, il veut simplement que ce soit lui le chef de son projet? Et quand on voit ses actions, eh ben on se rend compte qu'en fait, il a fui. Mais pourquoi? Uniquement pour être le chef de son nouveau programme. Lorsque Lénine est mort, ok, le père de la révolution bolchévique, lorsque Lénine est mort, qui l'a succédé?
Staline.
Mais il y avait un mec qui n'était pas d'accord avec lui.
Trotsky.
Eh bien, Trotsky, il s'est barré. Bon, il s'est barré parce que sinon Staline allait le tuer. Mais il s'est barré. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la quatrième internationale. Et il a créé la révolution internationale. Et il a été encore plus virulent. Et il a massacré encore plus de monde que Staline, du moins, à la même époque. Après, bon, il a mouru. Et Staline, il a continué à massacrer. Mais, voilà. Donc, ça veut dire que Trotsky, il voulait simplement être Staline. C'est pas qu'il pensait que Staline, il a fait des choses à sourd et que lui, il voulait les taquen. Il voulait juste être lui le chef. Et j'ai vu une question qui est apparue. Oui, Hana était prophétesse. Bien évidemment, puisqu'elle prie. Et elle fait partie aussi de la liste des sept prophétesses dans la Gemara, dans la Masechet Megillah. Pardon ?
Abraham aussi, il était prophète.
Bah, bien sûr.
Bien sûr, d'accord.
Bah, non, mais là, c'est clairement dit. On dit qui navigue où.
Discute avec Dieu et tout.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
D'accord.
Madame Nahon, ça vous satisfait la réponse de Rafidon ?
Très bien, mais peut-être on peut expliquer comme ça pourquoi il fallait sauver Nineveh.
Ah ben bah, oui, bah, deux secondes.
Il s'est démarqué de Nimrod. Même si c'était pour construire une...
Peut-être.
Il faut trouver une raison pourquoi il fallait sauver Nineveh.
Bah, peut-être qu'on verra, mais la semaine prochaine. Peut-être que dès qu'on va arriver à Nineveh, parce qu'au final, je vous spoil la fin du film.
T'as pas le droit. T'as dit qu'on connaît pas la suite, on attend.
Ah, mais bon, il paraît qu'à un moment donné, Yona, il va arriver à Nineveh. Et ben, dès qu'il va arriver à Nineveh, peut-être qu'on va comprendre pourquoi Dieu il s'intéresse à Nineveh. Mais ça y est. Tav. Yofi.
Autre question ?
Une autre question ? Oui ? Non ? Toi, t'as une question ? Ta fille, elle a une question ?
Recording stopped. Non.
Très bien.
Elle a une question, là.
Oui ?
Non.
Ah. Super, ton arabe.
Azagoborouk. Koltoub.
Koltoub, il y a cours avec le docteur Schibert sur les télims.